les papous dans la tête.
Groovy.
Bonjour, Françoise Tressard et la belle équipe, heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison. Merci de votre fidélité, de vos messages pendant les vacances et bienvenue à ceux qui nous écoutent pour la première fois, les papous, de 12h50 à 13h59 et en podcast comme il vous plaira sur franceculture.fr à la page des papous et le menu du jour. On rentre, on sort, c'est la vie selon Jean-Bernard Pouy. Et pour les primaires, votez Mosner.
Être gouverné, c'est être à chaque instant à l'aise. Ne jamais être ni jugé, ni puni, ni vexé, ni amendé, ni traqué, ni condamné, ni outraché, ni verné, ni déshonoré. Voilà le gouvernement, voilà moi, voilà Ricardo.
Une divagation sur l'herbe, toujours plus verte ailleurs. Une prise de bec entre Patrice Delbourg et Sophie Divry, ça se passe au bistrot. Une bouffée de Lucas Fournier pour une supposition. Et bien sûr le DLA de retour avec entre autres experts Serge Joncourt.
Et puis il y a une forme de décontraction parce que là il dit que cette fiole là, elle contenait un poison foudroyant destiné à une médication pour l'usage externe. Il ne s'est même pas cassé les pieds pour aller jusque chez le pharmacien et lui demander un nom de produit.
Et pour célébrer l'anniversaire de la naissance d'Antonin Artaud, l'exercice d'admiration de Gérard Mordillat. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez en nous écoutant, nous vous souhaitons un joli dimanche papou avec ce nouvel indicatif concocté par Anne de Pelchin sur miniskirt de Juan Garcia Esquivel. Et c'est Jean-Bernard Pouy qui lance ce numéro en une phrase, une réflexion nourrie, pleine de relatives et de subordonnées. Exercice de style à la Proust, diront certains, oui, ou du pur Pouy, tout simplement. Contente de vous revoir, monsieur Pouy.
Ah, ça y est, c'est là, on est dedans, jusqu'au cou. C'est la rentrée, un super marronnier la rentrée, c'est même le principal. Bien plus piquant que la vie secrète des francs-maçons, la rentrée. On va vous l'enfoncer dans la gorge, la rentrée, pour vous persuader que les vacances, c'est fini. Que l'été, c'est fini, bien fini, et ni. Alors qu'on est encore dans le train du retour, avec cette impression tenace de zoner dans une fourgonnette de police, roulant vers la prison, où vous allez mariner pendant un an ferme, avec cet espoir tout aussi tenace de s'évader, de sauter en marche, et de revenir d'où l'on est parti, la rage au cœur et la valise à la main. Une valoche remplie de souvenirs douteux, ringards, mais tellement précieux, bibelots qui vous aideront à affronter cette vacherie de rentrée. Non, ce n'est pas l'éternel retour, non, c'est la rentrée, avec un gros R, c'est-à-dire toutes ces épreuves atroces et déconcertantes. Retrouver son appartement, on avait oublié combien il était petit, sombre et bruyant. D'ailleurs, on avait oublié aussi, en partant, un pot de crème fraîche dans le frigo, éteint, qui maintenant est squatté par une masse puante, verdâtre et vivante. Dehors, ça y est, ça couine. On avait aussi oublié la basse continue émise par la ville. Et là, on se demande toujours si plus tard, on parviendra à dormir avec une caserne de pompiers stridents à 100 mètres à peine, sans parler des fêtards du bar tapas d'en face et des éboueurs tonitruants qui débouleront tôt le matin, valsant avec les poubelles et faisant rougir leur camion comme une Ferrari. Et l'on repense alors brusquement au silence que l'on vient de quitter, ce gros silence épais des vacances, où l'on entend la nuit, à des kilomètres, des hérissons batifolés et les escargots s'engueuler. Et alors, des idées mortifères affluent dans le désordre. La crème fraîche pourrie doit y être pour quelque chose. Des idées disparates, mais essentielles. Peut-être qu'au Monoprix, ils ont changé les rayons. Va falloir s'habituer. D'ailleurs, peut-être que le Monop n'existe plus et qu'il y a un magasin de fringues japonaises à la place. Et puis on réalise aussi que ça va être l'horrible saison des prix littéraires. C'est presque autant pénible qu'un euro de foot ou qu'un Roland-Garros sous la pluie. La rentrée, c'est vraiment horrible. C'est une punition. Il va falloir au moins une semaine pour retrouver la place des objets. Où est le gros sel? Où est la lessive? Où est la clé de la cave? La rentrée, c'est comme une barricade construite avec des bouts d'ennui et d'emmerdement, consolidée par les oublis et les absences. Va falloir éviter tout un tas de trucs que l'on sait impossible à éviter. Le tas de factures qui vous attend tapis dans la boîte à lettres. Et bien sûr, les impôts. Ah, le voilà le vrai passeport de la rentrée. Les impôts, quoi. Tout ça. Mais ça a augmenté. Comme le reste, sans doute, l'eau, l'électricité, le gaz, la box télé, le carnet de Navigo, le café comptoir, le plat du jour, tout. Et le téléphone aussi. Alors qu'il va falloir se farcir tous ces appels qui disent tous « Alors ça y est, t'es rentré? Tout s'est bien passé? Quand c'est qu'on se voit ?» Et la corollaire obligatoire « T'as eu beau temps ?» Et quelquefois, celle du patron. Bon, Lambert, fini de rigoler. Mais il n'y a pas que le téléphone. téléphone à éviter, il y a aussi les voisins, ceux de l'escalier de l'immeuble du quartier, qui vous poseront les mêmes questions que les fâcheux du smartphone, avec une variante du genre « Ben dis donc, t'as pas beaucoup bronzé, t'as dû avoir un temps pourri. D'ailleurs, tiens, oui, le temps, la météo, voilà une vérité de rentrée. L'automne arrive. Soit il fait beau et ça vous fait regretter encore plus les semaines passées, soit il flotte et c'est pareil, soit il fait froid et ça y est, les premières crèves sont là. D'ailleurs, le corps sait bien, lui, que c'est fini le repos, le farniente, les vacances, l'heureuse parenthèse. Du coup, il réagit, il vous balance toutes les petites malades de rentrée que même Patrice Delbourg n'a pas repérées, sans parler des séquelles de bobos de vacances, comme par exemple se faire enlever les dernières épines d'oursin qui restent encore plantées dans votre talon, et tout ça en général en même temps que les élections, primaires et secondaires. Et même si c'est la belle saison des champignons et du raisin, c'est aussi celle, un peu sinistre, des rutabagas, des topinambours et des navets. Et il faut affronter tous ceux qui vont vous bramer aux oreilles. C'est tellement beau l'automne, toute cette nature fauve et rouge, comme s'il était en feu. Alors que vous savez bien que ce n'est pas au bureau, à l'école ou à l'usine que vous allez pouvoir l'admirer, la nature. Vous savez bien que l'automne est le prologue de l'hiver. Septembre, ça rime avec décembre. Mais tout ça, c'est pas très grave. On peut surmonter. Ça passe petit à petit. Au fil des jours qui raccourcissent, autant que votre morale. Ça passe surtout pour ceux qui ont des enfants. Parce que c'est la rentrée des classes. Il faut accompagner la rétive progéniture à l'école afin qu'elle découvre la tronche de ses nouveaux bourreaux. L'avantage, c'est de se débarrasser pendant la journée de sa descendance, qui a appris à hurler, débrailler pendant les vacances. Mais le principal désavantage est de se cogner chaque matin les autres parents d'élèves, ces propriétaires d'enfants qui ont toujours les mêmes oiseuses conversations quand ce ne sont pas des diaporamas de leur virée à Montargis. En plus, pour aller à l'école, faut arpenter des rues où ne s'étalent que les couvertures mille fois vues et vomies de magazines annonçant en gros titre « Vive la rentrée, une bonne rentrée, enfin la rentrée de tous les risques, quand va-t-on sortir de la rentrée ?» Alors vous n'en pouvez plus, vous sentez que vous allez craquer, ou appeler votre mère, ou mettre le feu au centre des impôts. Vous n'en pouvez plus de la rentrée des classes, la rentrée politique, la rentrée de Canal+, la rentrée du championnat, la rentrée des artistes, etc., etc., jusqu'à l'aplatissement du bulbe, et qui exprime une vérité insécable, celle qui va vous faire patienter un an, presque un an, en imaginant tout ce qui va pouvoir vous arriver pendant presque 12 mois, et alors ça fait peur. Surtout qu'on réalise que dans un an, on aura un an de plus, et que ça commence à sentir le sapin, et l'on se met à haïr, à détester, à exécrer cette rentrée avec un petit air. L'entrée, c'est bien, plein d'espoir. La rentrée avec un grand air, ça vaut surtout dire qu'il y en a eu plein d'autres. C'est comme remettre, s'y remettre, remettre ça. Et vient le moment où l'on élimine ce mot, rentrée. Et pour pouvoir survivre et continuer, on se force à ne plus considérer qu'un mot, qu'un seul, pas la ressortie, non, tout simplement la sortie.
Ah bah c'est joyeux.
Ah c'est très joyeux, ouais. C'est la rentrée.
Les Papous en piste, saison 33. Une saison très publique, avec des rendez-vous réguliers au studio 105, à la Maison de la Radio, le vendredi soir à 20h, tout au long de l'année. Et vous êtes tous invités, dans la limite des places disponibles, naturellement, pour 2h20 de jeux Papous, dont certains seront improvisés, c'est-à-dire écrits sur scène. Pendant le déroulement de l'enregistrement, un petit supplément de risque et de plaisir. Premier rendez-vous vendredi 30 septembre au programme Vive la sociale, façon papou, avec Lucas Fournier, Patrice Caumont, Eva Almassy, Patrice Delbourg, Patrick Beignet, Jeanne Carillon, Hervé Letellier et Patrice Minet. Gérard Mordia lui est excusé, pourtant ce titre que je lui emprunte, Vive la sociale, est une deuxième peau pour lui. Et puis, pour nous accompagner en musique, Pablo Gignoli au bandoneon. L'entrée, elle est gratuite. La réservation indispensable sur le site maisondelaradio.fr. Maison de la Radio en un seul mot. Tous les renseignements à retrouver à la page des Papous sur franceculture.fr et sur notre page Facebook. Pourquoi les autres? Tous les autres et pas nous. Droite, gauche, écolo, divers, XXL, de gauche ou de droite. Les candidats se bousculent sur les podiums, qui pour les primaires, qui déjà pour la bataille finale, avec des idées ou sans, leurs projets ou pas, pour la France. Pour ce défilé des possibles, eh bien, nous ouvrons le débat aux Papous en donnant la parole à un postulant, Le premier à ouvrir le bal, c'est Ricardo Mosner. Il a déjà le costume. Voir sa photo prise à l'Élysée en juin dernier, à la page des Papous du Jour et sur Facebook. Pourquoi Ricardo? Eh bien, je vous dirai, pourquoi pas. Ricardo Mosner, vous êtes candidat à une primaire, je ne sais pas encore laquelle, mais vous allez tout nous dire.
Oui, je suis candidat à la présidence.
De la République française?
Oui, oui.
Vous êtes candidat à la primaire, parce qu'il y a des primaires maintenant, c'est ce qui est à la mode. Hein. On n'est plus candidat comme ça, pouf.
Je suis candidat à toutes les primaires.
Ah oui, droite, gauche, centre, peu importe, oui. Écologiste.
Exactement.
Et vous avez un nom ou c'est vous en tant que Ricardo Mosner?
Ricardo.
Ouais. Et donc vous avez un programme, parce que c'est mieux d'avoir deux, trois idées.
Je suis Ricardo, l'homme qui met l'accent sur l'avenir.
Oui. On l'entend.
L'accent, oui.
Être gouverné, c'est être protégé, libéré, encadré, soigné, chouchouté, estimé, apprécié, guidé, avec bienveillance, justice, par des savants. Être gouverné, c'est être à chaque instant à l'aise. Ne jamais être ni jugé, ni puni, ni vexé, ni amendé, ni traqué, ni condamné, ni outraché, ni berné, ni déshonoré. Voilà le gouvernement, voilà moi, voilà Ricardo.
Ah mais bon, c'est un programme suite, formidable, là, où on le veut, non?
Indispensable pour votre continuation, inéluctable, impossible de faire autrement à Ricard sinon rien, si vous ne voulez pas aller dans une dérive matérialiste, imparable, vers laquelle vous conduiront les autres candidats, et cervelés archaïques et périmés depuis longue date, avec leurs promesses intenables, qu'ils savent ne pas pouvoir tenir, mais cyniquement, par simple habilité de pouvoir, se convainc eux-mêmes, d'abord, d'être capables de vous procurer une meilleure situation, pour vous tromper ensuite. Chez moi, Ricardo, il n'y a pas de programme. Car le programme, je ne pourrais pas l'accomplir tant qu'on le demande. Demandez le programme, on n'est pas au théâtre de boulevard ici. Le programme, c'est moi. Et si l'establishment en place connaissait mon programme, on m'empêcherait d'arriver au pouvoir. Et si je vous fais part de mon dispositif pour gouverner, vous pourriez me reprocher plus tard de ne pas avoir tenu parole. Par contre, vous, peuple, en exprimant à travers votre vote votre confiance en moi, je serai élu naturellement. Les choses se passeront naturellement. Et le bonheur régnera sans peine naturellement. D'abord, parce que vous êtes fatigué des promesses non tenues. Et je vous promets pas. Je vous assure une existence paisible et prospère. Vous ne faites rien. Ne vous fatiguez plus à protester, manifester, vous indigner, vous choper des ulcères et tachycardie suite à des colères inutiles et contrariantes et contraires à la nature humaine. Une communauté humaine est faite pour être guidée dans le calme et la béatitude. Non, ce ne sont pas que des paroles, ce sont des faits.
Oui, ça pourrait ressembler un peu à des paroles, mais bon.
On dirait un peu le discours de Fidel Castro qui dure 5h30, vous voyez, avec l'accent le même.
Mais il ne faut pas hésiter, les cordes du violon font un bruit épouvantable qui irrite les oreilles si on doute au moment de les frotter. Chez moi, aucun doute, ma voix est neutre et résolue, vos voix devront aller dans les silences de la raison, dans les urnes. Et ainsi, telle une équation mathématique, mon succès sera le vôtre. Parce que c'est dans l'ordre naturel des choses que celui qui gouverne avec l'appui du peuple apporte ce qu'on attend de lui. Ne cherchez pas des complications où il n'y a pas. Moi, je vous guiderai, porté par vos espoirs, et vous serez les heureux bénéficiaires d'une existence dans laquelle on ne se prend pas la tête, où on se laisse conduire vers la sérénité et l'opulence. Sans confiance, on n'arrive nulle part. Pour vous convaincre définitivement que vous avez fait les bons choix, car naturellement vous porterez vos voix, non pas sur ma liste, mais sur mon nom. J'ai pas de liste. Je ferai après la liste. C'est pas la peine de perdre son énergie à faire des combines avec ceux de droite, de gauche et du centre, à chercher la quadrature du cercle, tant qu'on ne m'a pas élu.
C'est pas bête.
Une fois au pouvoir, ceux qui voudront bien mettre la main à la pâte viendront me donner un coup de main, naturellement. Dans mon sens de la marche. Donc, pour vous convaincre, une fois pour toutes, je mettrai l'accent sur mes discours, afin de faire avancer mes idées en vous berçant. Cet accent vous permettra de ne pas tout à fait me comprendre, ce qui créera un flou artistique propre à ne pas faire des déçus. L'essence du discours, parfois, on pourra le trouver dans la musique des mots, ou, comme ici, maintenant, dans un agréable et lumineux va-et-vient du logos. En cas de litige autour des différentes perceptions des discours, lois, résolutions, etc., un médiateur trouvera toutes les possibilités d'interprétation afin que chacun soit satisfait, ce qui permettra en gros de faire plaisir à tout le monde, puisque, vous l'avez bien compris, c'est de cela qu'il s'agit, faire plaisir à tout le monde. Les votants ont toujours raison, c'est ma devise. Je pense qu'on a répondu à toutes vos attentes et avec toutes les nuances de la langue. On n'attend plus que vous. Il ne manque que vos bulletins pour atteindre votre société idéale. Le paradis à la portée de tous, c'est moi, votre serviteur, Ricardo, qui mettra l'accent pour instaurer l'épanouissement, la sérénité et la joie de vivre de la collectivité dans les doux vacarmes de la palabre à géométrie variable. Maintenant, allez, sans trop d'angoisse stérile, continuez dans la placidité de votre imperturbable et sérénissime intention de déposer votre bulletin bénéfique et gagnant au nom de Ricardo. Vous mettrez l'accent sous vos convictions, elles seront les miennes. Tous ensemble, tous accents confondus, un triomphe pour chacun, votez Ricardo, c'est dans la boîte.
Bah dis donc, il est sûr de lui, hein. Il n'a pas de problème d'ego, enfin son ego est surdimensionné, mais il n'y a pas de doute, au fond.
Bah, si un doute, on n'a pas le droit de diriger une nation.
Bravo. Bon, on dirait un prêche à l'église.
Ça nous apporte une fraîcheur inouïe sur cette campagne électorale.
Oui.
Il ne faut pas qu'il y ait des doutes.
Oui, c'est plus clair. Comme ça.
Lucas Fournier, l'homme qui met l'accent sur le bonheur, Ricardo. Ah, on a envie, enfin moi j'avais envie de voter pour lui.
Ah, moi aussi.
Ah ben voilà.
Ça y est, moi je suis, je veux voter pour lui.
Vous êtes militant.
Oui, c'est exactement.
Conquis.
Je suis militant de terrain.
Oui.
Je suis électeur de base, je suis foyer fiscal, je suis ressortissant, je suis individu numéroté à l'INSEE, je suis citoyen du monde, mais aussi français moyen, je suis détenteur de 1,43 millionième de tantième du corps électoral, et je connaissais l'économiste Ricardo, je connaissais le footballeur Ricardo, et là je découvre l'orateur Ricardo, et je vous annonce que je vote pour vous. Parce que toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de l'accent. Et toute ma vie, j'ai cherché quelqu'un qui m'aiderait à mettre enfin l'accent. Et vous êtes celui-là. Mon école s'appelait Prosper Mérim, avec deux accents. C'était à Toulouse, où un torrent de cailloux roule dans son accent. Mes humanités ressemblaient aux amanites mortelles. Et les langues, l'anglais et l'espagnol, on exigeait de moi un accent tonique. Moi, le mou, le ténébreux, l'inconsolable, incapable de mots, voulant toujours choisir le moindre. Comment pouvais-je me faire comprendre l'accent toujours recommencé et jamais bien placé? Alors Ricardo Mosner, homme sans accent, qui me guidera et qui sera donné à ma vie l'accent de la gravité que je n'ai jamais su lui donner, l'accent de sincérité qui lui a toujours manqué, et le point sur le i de ma vie dont je ne sais pas que faire. Merci Ricardo.
Oh là là, est-ce que votre famille va voter aussi pour lui? Vous les avez convaincus dans
j'espère.
La cellule familiale.
J'espère.
Triple show, esto es una tortura y a casa yo me voy.
Qué bien te llamo, ya está.
Es el más sensacional, más espectacular, super corazón, mega papel. El show de los martes va a empezar.
Muppets Most Wanted par Los Muppets.
Este programa tiene pajaritos en la cabeza y es en Francia Cultura.
C'est bien dit, Ricardo. Autre rubrique, autre accent, celui d'Eval Massy pour notre petit rimailleur. Sa mission, définir sous forme de poème un certain mot. Alors d'habitude, j'impose les mots à traiter, mais aujourd'hui, j'ai donné carte blanche à Eva et elle a choisi le mot herbe. Herbe peut-être parce qu'ailleurs, l'herbe est toujours plus verte. Jacques Vallée, oui, attrapez le dictionnaire, c'est ça Jacques. Vous tournez les pages et vous vous rendez au mot herbe pour contrôler Eva. Alors Eva, pourquoi avoir choisi l'herbe?
Je l'ai choisi parce que c'était l'anniversaire d'Attila Joseph et puis il a écrit « Sois ce que tu es un homme, l'herbe après toi repoussera ».
Très bien, vous nous rappelez brièvement qui était Attila Joseph pour ceux qui ne l'ont pas lu.
Poète hongrois, assez intraduisible quand même en français, donc vous en connaissez un autre.
Qui était bipolaire et qui a terminé en se mettant sous un train.
Plusieurs fois. En se mettant, oui, j'aime bien l'expression
oui,
se mettant.
Il l'avait fait plusieurs fois.
Ah.
Un jour, il s'est mis, il était désespéré,
Il a mis à tête. Et puis tout d'un coup, il y a un employé des chemins de fer qui lui a dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Il a dit « Ben, j'attends le train. » Et l'employé lui a dit « Ah ben non, il y a quelqu'un qui s'est suicidé 2 kilomètres plus avant. » Donc il était quand même un peu désappointé. Il est rentré chez lui un peu.
C'est pour ça qu'il a une avenue non ferroviaire à Budapest.
Donc, hommage à Attila Joseph et Valmassi.
Herbe. Étendue verte, prairie, gazon, pelouse ou pré, autant de noms. Pour cette multitude de l'herbe, 1 million de brins et 1 verbe. Ça pousse, vois-tu, sa vie, végétale graminée ainsi. La chlorophylle par régiment, armée de lances, de piques parfois, semée de campanules, sainfoin, fleurs séchées dans votre herbier. Faut pas manger en herbe votre blé. Non plus couper l'herbe sous vos pieds. Tondeuse désherbant Attila, mais l'autre Attila. Hein. Tondeuse désherbant Attila, herbicide égal génocide, le petit peuple de l'herbe auxire. Mais que dire des vaches, des moutons, des éléphants et autres poissons, des escargots, tous herbivores. Au beurre, aux fines herbes, on vous dévore. Le cannabis, une mauvaise herbe, ça dépend, tu aimes ou tu gerbes. T'inquiète, les herbes médicinales vont vite remettre sur les rails. Odeur divine que l'herbe coupée, foin frais mais foin de graminée. Bonjour le rhume du mamelon,
ah oui,
poète en herbe, vous avez un don, vos idées de génie germent, peignez un déjeuner sur l'herbe. Herbe à chat ou bien herbe au chat, pas pareil, orge, menthe, népéta. Herbe de la reine, c'est le tabac, démodé, herbe sèche, nada. Allez, faites de l'herbe au lapin, herbage, verdure, pâture, lopin. Le bonheur serait dans le pré, fini, épuisez le litré.
Elle a fait le tour du brin d'herbe, non?
Oh là là, mais...
Et en octobre, pour que ce soit coupé à la même hauteur, quand même, la pelouse.
Oui, c'est du gazon qu'elle a fait.
Oui.
Mais ce qu'il y a, c'est que le dictionnaire donne énormément d'exemples d'herbes. Alors, il se veut savant, c'est un dictionnaire qui est pour les savants.
Oui.
Et il y a toutes les sortes d'herbes au chat, népette, et puis, il y a les herbes de Provence, mélange de thym, de romarin. Marin,
ah oui, pour origan, les pizzas, oui.
Sarriette, marjolaine et basilic, voilà.
Mais
autrement, on retrouve toutes les herbes qui sont citées, à part peut-être le hashish et la marijuana.
Ah, mais Eva a traité
le cannabis
quand même.
Oui, mais pas le hashish.
Non, c'est pas très éloigné quand même, si on va, je suis pas très technicienne, mais...
C'est pas tout à fait pareil, mais ça se ressemble.
Oui, elle est très puriste, tu vois. Est-ce qu'il y a une jolie petite citation?
Elle a parlé de manger son blé en herbe.
Oui.
Alors, décidément, j'ai pas écouté.
Vous étiez où exactement?
Alors, une citation de Zola: l'enfant avait poussé Dru en mauvaise herbe. Ah. Et puis de Balzac: un mécanicien en herbe.
C'est tout lui, ça. Bon, ben, on fera avec. Gérard Mordillat, vous avez une vraie fausse, vous?
Oui, moi, j'ai une très belle citation de Paul Géraldi. « L'herbe est verte, le ciel est bleu, laisse donc la fenêtre fermée.
Oui. » I wanna love you, you. And treat you right. I wanna love you, you. Every day and every night, we'll be together. With a roof right over our heads, we'll share the shelter of my single bed. We'll share the same room. Your provider bread. Is this love that I'm feeling? Oh, yes and no, yes and no now.
Musica nuda. Une page se tourne avec la rentrée, même si pendant ces vacances 2016, l'insouciance n'était pas de mise, mais nous laisserons aux spécialistes et autres philosophes les problèmes graves pour nous concentrer sur les petites agaceries du quotidien. Dis-moi ce qui t'énerve, je te dirai quel genre de râleur tu es. Par exemple, un mauvais coucheur façon Delbourg, il n'est pas toujours commode Delbourg, du genre à pester aussi contre les petites choses. Et c'est Sophie Divry qui mesurera sa grogne à la sienne. Alors vous êtes bien furieux contre qui ou quoi aujourd'hui, Patrice ?
Les garçons de café qui mettent une plombe à vous apporter un verre d'eau.
Ah oui, ça c'est bien.
Oui.
Je hais ces estaminets où les garçons de café mettent une heure à vous apporter un verre d'eau du robinet. Quand ils ne vous refusent pas tout simplement votre pyrex, d'aqua simplex en arguant qu'ils ne travaillent pas à une officine de l'armée du salut. Les ladres, les pignoufs, les foutriquets psychorigides, les orphelins de murailles, les diarrhées de facochères. Oh, je les maudis sur trois générations, mais je m'emporte. Je souhaiterais juste une petite eau plate, un château la pompe, une source hidalgo à température, nada. On m'apporte cérémonieusement l'eau minérale du pays de Pierre Laval. Un grand cru dont le chat d'Iran était jadis un grand consommateur. De qui se moque-t-on ? La bulle fine, ronde et légère pour les restaurants de prestige. Hey, je veux un godet de flotte, un bouillon de canard, un jus de grenouille, un sirop de pébroc. Pas la source auvergnate la plus chère du monde. On me refuse ma gorgée de rivière parce que c'est gratuit. C'est ce que j'en déduis dans un premier temps. C'est gratuit. Et de nos jours, on répugne à vous apporter ce qui est gratuit. C'est humiliant pour le serveur. Pas la peine de faire un effort physique qui ne vous rapporte rien, hein ? Des clous, des nefles. Messieurs les gougnafiers gominés en rondins. Pourtant, le petit coup de pluie gratos au comptoir, c'est obligatoire. C'est dans le code du zinc. C'est dans la loi de la sciure. Sinon, non-assistance à personne en danger. Ah, les brigades de Grigou, les lésineux, les rapias en gilet de pingouin. Et le patron avéronnais derrière sa caisse en acajou qui compte ses dividendes. Et pourquoi ne pas faire payer nettoyage au cachemire du formica, le soleil par-dessus les toits et le cul de la serveuse en sus ? Y a pas de petit profit, hein ? Ça vous dégoûte d'aller dans les gargotes à nappe blanche, seul et au régime. Le sommelier vous rit au nez. Un verre de baille ? Mais c'est une insulte à la profession. Apportez à ce petit monsieur le chablis bien frappé qui va bien, le morgon à température ou le Saint-Amour dans la paume tiède. Même avec le café serré, le verre d'eau tiède peut se faire attendre une Olympiade. Il permet pourtant de se rincer la bouche pour avoir les papilles prêtes à apprécier l'arôme qui vous est servi, juger de la torréfaction, sentir les touches fruitées d'un café colombien ou les notes parfumées d'un grand cru éthiopien. Macache, je t'en fiche, l'eau reste dans les tuyauteries. Ah, le satané sécurite de flotte basique, venu des nappes phréatiques du Vésinet. Voilà la commande qui agace, c'est sûr. Vitel, Evian, cristalline, yes, sir. La lymphe des caniveaux, nenni, allez vous faire voir à la source. Certains, très rares, considèrent que le verre d'eau constitue un geste commercial. Mais c'est souvent à la tête du client. On ne peut refuser une gorgée de caniveau à un fondé de pouvoir en flanelle qui fait marcher régulièrement le commerce du Bordeaux millésimé. Mais ce traîne-là tend haillon, il peut aller se rhabiller chez l'abbé Pierre et se rincer avec l'eau des nouilles. Enfin, pour ne pas briser le métier des larbins assermentés, un conseil. Allez en douce aux toilettes, avec un gobelet vide, et versez-vous un coup de flotte au lavabo. Ou alors rangez-vous aux côtés d'Alphonse Allais, et vive la tribu des hydrophobes.
C'est vrai que c'est un problème, ça.
Un problème.
Et c'est vrai que ça dépend de la bonne tête du client. Hein. Mais il y a quand même des serveurs sympas. Ou des serveuses sympas.
De moins en moins.
Enfin, ça dépend où on va quand même. Vous avez un point de vue sur les serveurs qui n'apportent pas l'eau, Sophie Divry ?
Je ne sais pas à Paris, mais oui. Moi c'est Fanny. Hein. Je suis serveuse tout l'été à la Salvetat-sur-Agout dans l'Hérault.
Ah oui.
Alors je travaille place du village et il fait chaud.
Oui.
Alors les hordes de touristes arrivent en basket après leur petite randonnée là, et ils viennent s'asseoir assoiffés à ce bar assailli. Hop, mademoiselle, une limonade et un verre d'eau. Un cacolac pour le petit et un verre d'eau, s'il vous plaît. Et un panaché, mais un verre d'eau. Et miss, un café et un verre d'eau, évidemment. Et encore, je suis bien contente quand il demande avant. Hein. Voilà. Le matin, le midi et le soir, ça défile. Et pourtant, la fontaine du village est juste en face du café, à 50 mètres. Oui. Mais ils ont dit, Fontaine, je ne boirai plus de ton nom, je ne sais pas. Mais alors, ils m'ordonnent de leur amener une théorie de petits sécurites remplis de Château-la-Pompe. Alors, début, je m'exécutais, croyant bien faire. Bézef, le patron m'engueulait. Mais c'est pas toi qui paye la facture. Et Nenny sur les pourboires, hein. Pour eux, c'était normal. Alors maintenant, j'ai la méthode. J'apporte la commande payable, et je dis, je reviens. Bon, 5 minutes plus tard, je reviens très très vite, et je pose que l'addition. Je suis revenu. Hein. Et alors là, déjà, s'ils arrivent à m'attraper, c'est statistique, il n'y a plus que 1 sur 2 qui réclame « Et le verre d'eau, madame ?» Déjà, ils ont changé de ton. Hein.
Ils ont renoncé aussi, oui.
« Et le verre d'eau, s'il vous plaît. Voilà. » Et alors là, là, je dis ce mot magique, ce mot parfait, cette expression employée par tous les serveurs et les serveuses du monde entier, je réponds tout de suite. Alors quand un serveur ou une serveuse vous dit tout de suite, vous pouvez être sûr que c'est jamais.
Oui, c'est vrai.
Mais il faut comprendre, hein, le verre d'eau, eh bien, il doit être propre. Donc il doit être lavé avant. Alors non seulement j'aurai un plateau de 10 kilos à l'aller et au retour, mais ça fait 2 fois plus de vaisselle. On voit bien que vous ne les connaissez pas, ces affreuses machines à laver les verres qui sont derrière le bar et qui se remplissent par des tiroirs à hauteur du genou et qui me décrochent l'épaule au remplissage, qui lavent à la vapeur et qui me brûlent les doigts quand on les vide. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est d'essuyer les verres. Ce petit verre désaltérant, misérable, minuscule, hein, qu'est-ce que ça lui coûte, hein ? Il a fallu y passer un chiffon. Regardez le soir, en quittant café et restaurant, tous les verres à laver sur le zinc. Hein, faudra les essuyer et les reposer sur l'étagère le soir. Et vous les verrez, les tendinites et les névralgies. J'ai tellement eu mal à l'épaule que j'ai failli perdre mon travail. Buveur d'eau, vous augmentez le chômage. Buveur d'eau, assassin, meurtrier. Alors, pour ma santé, le docteur de Salvetta a dit « Plus personne ne boira gratuitement au bar de la Salvetta ».
Sympa, sympa. On sent l'expérience et le vécu chez Sophie.
Moi, j'essuie les verres au fond du café.
Et dans ce décor banal à pleurer, il me semble encore les voir arriver. Ils sont arrivés, se tenant par la main, l'air émerveillé de deux chérubins portant le soleil. Ils ont demandé d'une voix tranquille à toi pour s'aimer au cœur de la ville. Et je me rappelle qu'ils ont regardé d'un air attendri la chambre d'hôtel au papier jauni. Quand j'ai fermé la porte sur eux, il y avait un soleil au fond de leurs yeux. Que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal.
Alain Bachung, vous êtes bien sur France Culture et vous écoutez Les Papous dans la tête. Au micro, Françoise Tressart et la bande des Papous du jour. À suivre, une supposition. Le DLA, piège littéraire par Jacques Vallée, pour les experts Dominique Muller, Sophie Divry, Jacques Jouet et Serge Joncourt. Et nous célébrerons l'anniversaire d'Antonin Artaud, né un 4 septembre, avec Gérard Mordilla. Lucas Fourny, on joue au jeu des suppositions avec vous, d'accord?
Et oui, avec vous.
Avec moi?
Oui.
Ah, chic.
Alors, suppose, Françoise, que tu t'appelles Mani.
Mani?
Mani.
D'accord.
Et qu'en plus tu sois blonde.
Alors ça, il faut que je fasse un effort.
Et que tu rêves de tourner dans un film.
Ça, oui.
Il n'y a pas de printemps pour Mani, disait le grand Hitchcock. Oui. Et pourtant, toi, tu en rêves du printemps et du cinéma. Tu te vois montant les 39 marches du Palais des Festivals. Tu rêves que tous les people autour de toi se tassent, Mani. Tu te vois manger des glaces sur la Croisette. Ici, l'ice cream est presque parfait. Tu es blonde, mais tu ne ressembles ni à Kim Novak ni à Grace Kelly. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute, non. À la rigueur, vu ton profil rustique, Mani, tu pourrais figurer dans un film des frères Taviani, ou des frères Dardenne, ou des frères Larieux.
Ouais.
Tu voudrais tourner, mais tu tournes en bourrique. Non, je ne suis pas vache en disant que tu es rustique.
Bah, un petit peu quand même, ouais, je trouve.
Non, mais tu l'es, parce que tu es une blonde d'Aquitaine, Mani. une blonde d'Aquitaine, une bovine allaitante.
Une vache.
De grande taille.
Oui, oh, merci de m'avoir choisi.
Et tu tournes en rond dans ton stand du salon de l'agriculture. Chacun peut admirer tes pieds rebondis, comme les seins de Sophie Marceau, tes hanches larges, façon Monica Bellucci, ton regard aux paupières tombantes, à la Sandrine Kiberlin. Mais aucun producteur, aucun metteur en scène ne te regarde pourtant. Hollywood, c'est si loin du salon de l'agriculture. Alors Mani, puisque personne ne veut te faire tourner, c'est à toi de te mettre en scène. Alors tu appelles ton collègue du stand d'à côté, c'est un âne du Poitou. Alors tu fais signe au gars du service de nettoyage, un grand Africain, un vieil Ukrainien barbu et un petit Syrien d'approcher. Tu t'allonges lassivement dans la paille. Un paysan a posé près de toi une bouteille de rouge et une bouteille d'huile. Et dans cette étable urbaine, entre le Saint-Joseph et l'huile vierge, avec trois mages, tu accomplis le miracle de la nativité. C'est beau comme du Zeffirelli, troublant comme Pasolini. C'est beau, on dirait du veau. Oui, d'ailleurs, c'est un veau. Les visiteurs accourent, tous ont sorti leur smartphone. Tu tournes enfin et la rumeur enfle. Oui, cette fois, Mani Vell.
Oh
alors là...
Ah, elle vient de très très loin.
Ah oui, moi j'en attendais deux autres.
Lesquelles?
Ah oui, Mani Vell.
Qu'est-ce que vous
attendez? Retour de Mani Vell, c'était un beau film.
Oui.
J'attendais Mani Court.
Oui, pour moi aussi.
Oui.
Pour les... Et puis j'attendais, comme c'était une vache, les côtelettes Mani.
Ah, c'est quoi ça?
Oh, bah, si.
C'est une marque.
Ah oui, c'est une grande voix de...
Une grande voix de chanteuse.
C'est une vache qui rit.
Ah, Colette Mani.
J'attendais les Colette Mani.
Oui, c'est pas... Ah non, moi, mais j'aime beaucoup celle de Lucas. Redites-nous la fin, alors, cette fois...
Pour de bon, Mani Vell.
Ah oui, c'est pas hyper, hyper culturel, mais c'est pas grave non plus.
C'est agriculturel.
En place pour le DLA, chez vous, chez nous, tout le monde joue. Concentré, appliqué, prêt à trouver les bons arguments pour déjouer le piège que nous tend Jacques Vallée. Alors, Jacques, il a choisi un petit bout de littérature et il nous le soumet anonymement. Et on joue bien sûr avec des auteurs très connus, c'est le plaisir de ce jeu. Aux experts que vous êtes à l'écoute et à nos experts du jour, Dominique Muller, Sophie Divry, Jacques Jouet et Serge Joncourt, de trouver l'auteur de ces lignes avec des arguments littéraires, j'insiste. Sophie Divry a joué chez elle en nous écoutant, puisqu'avant de devenir papou il y a quelques mois, elle écoutait les papous. Mais c'est la première fois qu'elle joue au micro. Bienvenue dans le club des experts, Sophie. C'est parti, on vous écoute, Jacques Vallée.
Tout à coup, la main se dressa sur son médium, se balança quelques instants, d'avant en arrière et d'arrière en avant, comme pour prendre de l'élan, et sauta par terre, tel un chat, sans aucun bruit. Tel encore un chat sur le tapis, elle bondit presque en mouvement, de haut en bas et de bas en haut, et, arrivée près de la table de nuit, fut d'un trait sur le marbre, y tâtonna parmi les flacons, déboucha l'un d'entre eux, le prit, et en versa quelques gouttes dans le verre de tisane. Puis, rampant jusqu'au nez du dormeur, le lui pinça de façon à ce qu'il se réveilla dans un éternuement, plongea dans le blanc et le noir des draps, puis se précipita par terre, où je ne la suivis plus du regard, toute mon attention étant désormais concentrée sur le malade. Celui-ci dit que j'ai donc soif. Et sans que je pusse, à mon indicible horreur, me lever du fauteuil où me retenait je ne sais quelle force diabolique, saisis le verre à tisane et bu. De cet instant précis, je me sentis délié en quelque sorte. Je courus au lit, où je ne pus que constater la mort immédiate du major. Sans me livrer à des efforts inutiles, je regardais le flacon dont la main s'était servie. Il me faut bien parler de la sorte. Il contenait un poison foudroyant, destiné à une médication pour l'usage externe, et se trouvait laissé par mégarde parmi les pots de tisane et les fioles de sirop de julep.
Bah dites donc, il s'en passe des choses. À qui appartient la main, Dominique Muller?
Ben, à personne, manifestement. C'est une main toute seule qui se balade.
Je vous ai vu faire le geste tout
oui,
à l'heure pendant les
cours. Je voulais voir comment essayé. Ça faisait, n'est-ce pas? Il y a un côté danseuse, enfin, ouais. Un côté chorégraphie.
Ça se discute.
Mais
ça
moi,
se
je vois une main toute seule, quoi.
Qui se balade
comme on est dans
ça.
Le fantastique où on n'y est pas, hein. En l'occurrence, on y est, alors. Oui.
Moi, je ne crois pas.
Jacques Jouet.
Je crois que la main appartient au narrateur.
Ouais. Je m'étais posé la question aussi.
Ouais. Et
quand il dit « Je regardais le flacon dont la main s'était servie », entre parenthèses, il me faut bien parler de la sorte, c'est très étrange.
Ah oui, méfions-nous, on pourrait m'entendre.
Comme si, voilà, c'est pas moi qui ai fait ça, mais c'est quand même sa main, visiblement. Je crois pas que ce soit une ambiance fantastique.
Non,
je le vois pas comme ça.
Sophie Divry, première impression.
Ah oui, c'est un très beau texte, c'est très inquiétant. Est-ce que le piège de faire commencer le texte là nous fait croire à que la main a sa vie autonome et que lui dans le fauteuil regarderait donc cette main et le malade, donc le major, en train de se faire empoisonner par cette main, ça voudrait dire qu'alors la main est commanditée par une ancienne amante qui veut tuer le major, par exemple.
C'est une main de femme.
Non, bah, ou une vengeance de marin, on ne sait pas. Et pourquoi par mégarde il y a un poison aussi foudroyant sur la table de chevet, ça c'est quand même très bizarre.
Qu'est-ce qu'il fiche là par mégarde, en effet. Oui.
À côté des fioles de sirop de julep, c'est quoi le julep?
Ça, ça fait tout de suite États-Unis, dans les États du Sud. Ah, le julep. C'est ça. Oui, c'est tout le côté autant en emporte le vent, n'est-ce pas, le julep?
Ah bon, c'est possible, oui. Je me souviens pas du julep. J'ai joué non plus, apparemment. Non. Serge Janco, vous avez l'air très concentré, vous relisez ce texte puisque vous en avez un exemplaire sous les yeux. Alors, qu'est-ce qu'il vous inspire? Qu'est-ce qu'il vous donne à dire?
Oh ben écoutez, c'est bien fait parce que là, ça sollicite l'imaginaire. Hein. Il est déjà arrivé à imaginer effectivement, parce qu'il y a deux façons de le lire. Hein. Ça, c'est la main du narrateur, soit c'est une main abstraite.
On est dans le fantastique ou pas pour vous?
Écoutez, tout l'indique. Alors, du coup, ça devient trop évident, quoi. Alors, ce qu'il faut un peu analyser, c'est savoir quel est ce major, là, dans quelle institution, hiérarchie on se trouve, quoi. Ça serait intéressant.
Alors, vous croyez qu'on est dans un hôpital militaire?
Écoutez, il y a quand même le major. On ne sait pas souvent qu'on est assis à côté du lit de mort d'un major, enfin, d'un major alité.
Ah ça peut être un vieux major qui est dans la famille.
Major dans la famille.
Ça, alors, c'est vrai, j'y avais pas pensé.
Non, mais on n'est pas...
Oui, alors là, écoutez, ça remet tout en cause.
Bon, on a deux théories qui s'affrontent, fantastique ou pas fantastique, crapuleux, puisqu'il y a crime, de toute façon.
Ah oui.
C'est quelle époque, Dominique?
Fin 19e, ça me fait penser, en tout cas, la description, car c'est très descriptif, je trouve qu'on voit très très bien la scène. C'est pourquoi je faisais des gestes avec les mains, parce qu'on voit très bien. Ça me fait penser à un tableau d'un peintre qui s'appelle Fuseli. Vous voyez qui est Fuseli?
Pas très
qui
bien,
qui faisait
non
des petits singes, et des petits singes, c'est pour ça que je pense à la main aussi. On voit très bien des singes qui galopent dans tous les coins. C'est 1790, c'est pré-romantique. Et je trouve que ce texte a un peu cette aura-là,
oui,
de
Sophie.
Marie Shelley, vous voyez ce genre de truc. Voilà.
Et surtout, on voit, vous parlez de peinture, mais c'est vrai que ça pourrait être un peintre qui a écrit ça, mais ça commence par un film d'animation. On voit très bien la main, comme
courant,
un petit bout de film d'animation, mais quand même, la main plongea dans le blanc et le noir des draps. C'est quand même étrange d'écrire comme ça. Alors, c'est la nuit, il ne voit que le blanc et le noir des draps.
Oui.
Mais j'ai aussi une autre interprétation, au fond, que la fantastique ou le meurtre, ce serait l'interprétation christique. Parce que celui-ci dit « que j'ai donc soif ». Les dernières paroles du Christ, « j'ai soif ». Et on lui verse, on lui donne dans une éponge avec de l'eau et du vinaigre. Et là, après avoir bu, il rendit l'esprit. Et là, le major rendit l'esprit.
Pas mal.
Donc si c'est un texte plus classique, 19e, il peut y avoir l'allusion de les derniers mots du mourant. Selon, ça dépend où est le texte. Si c'est à la fin d'un grand roman.
Et c'est la question.
Voilà. Est-ce que c'est la mort du personnage?
Et Jacques Jouet, d'accord. C'est pas inintéressant.
Oui, du coup, ça serait du feuilleton pour moi, c'est-à-dire des situations bien légendaires comme ça.
Eugène Sue.
Je n'ai pas prononcé de...
Non, mais du feuilleton à la Eugène Sue, ce genre de choses.
Oui, alors ce n'est pas toujours très bien écrit quand même.
Là, le texte, vous voulez dire? Oui, un exemple.
Les deux, par exemple, la troisième ligne,
sauta par terre tel un chat, sans bruit aucun, tel encore. Alors le tel qui est là pour éviter le comme, ça c'est un peu pâteau, ça.
Ah oui.
C'est pas terrible.
Oui.
Moi, ça me gêne pas. J'adore lire des feuilletons, des romans feuilletons. Hein. C'est-à-dire que ce que je remarque là, je le remarque pas dans ma lecture d'un roman feuilleton.
D'accord.
Parce que je lis 300 pages d'un coup et ça se voit pas.
Puis on lit pour l'histoire.
Quand on l'isole sur 20 lignes comme ça, c'est des choses qui éclatent.
D'accord. Pour vous, Dominique ?
Je décide de tomber dans le piège, c'est-à-dire du roman fantastique.
Ouais.
Avec la main, probablement d'autres, très onirique, en fait. Et donc, ça ne me gêne pas du tout non plus de lire ces choses-là comme un feuilleton, justement. C'est-à-dire avec une sorte de naïveté, à contrario, dans ce genre de description, quoi.
Et un bon gros roman, pour vous aussi ?
Certainement, oui. Ou un recueil de nouvelles, mais tout ça dans le même esprit, avec probablement des oiseaux voletants, des chauves-souris, un château quelque part. Je vois ça un pré-romantique.
Et qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir d'autres majors qui vont être trucidés, comme ça ou...
ben, je pense que la famille, puisque tous les majors ont une grande famille.
Vous voyez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors.
Donc la famille va faire éruption dans la pièce, on va essayer de savoir qui a fait quoi, il y aura d'autres meurtres, bizarres aussi, voilà. Peut-être un fantôme.
Ouais, déjà, un fantôme. La main et le fantôme.
Une main, c'est une main.
Alors, oui, trouve, la main le pourchasser, la main était dans la tombe depuis le début.
Mais maintenant, il y aura donc un œil, et voilà. Ah oui, un crâne. Enfin, vous voyez, tout cette espèce d'attirail un peu maintenant poussiéreux, mais qui, sur le moment, avait au contraire beaucoup de fraîcheur. Donc, entre 1793 et 1822. Avant Goethe,
très très daté, c'est formidable. Elle est formidable. Serge, moi je vous trouve bien muet sur cet exercice aujourd'hui. Vous avez l'air perdu.
Muet, non, parce que en fait c'est un texte qu'il faut voir avant tout, parce que tout fait image. Et donc c'est à la limite de la bande dessinée. C'est un texte qui est fait pour s'amuser. Hein. C'est pas
un texte. Du second degré.
C'est du second au troisième degré, oui. C'est un humoriste, un amuseur, c'est un drôle quoi, qui fait ça. Hein. Alors il glisse le major, là, parce qu'il n'y connaît rien dans les grades. Alors bon, il faut. Le major, ça fait toujours. Bon, ça fait toujours bien. Et puis, si vous voulez, c'est écrit, avant tout, c'est visuel. Quoi. À tout moment, texte, on le voit, on voit la main qui saute.
Sophie parlait d'un film d'animation. Oui.
Absolument, c'est tout à fait ça. Donc c'est quelqu'un qui a. Probablement écrit des synopsis, des scénarios de bandes dessinées.
Et à l'époque de Dominique, non, c'est pas possible. Non, entre 1700 et quelques. Et... Non, c'est
non,
plus récent.
Non, c'est les années 70, 80, 1900.
Ah, oui. 1900, oui. En français direct ?
En français, c'est un français, un bon français, oui. Oui, non, puis il y a une sorte d'impression. Là, il veut faire un peu une écriture qu'il ne maîtrise pas complètement, mais à laquelle il s'amuse. Alors, ouais. La main se dressa sur son médium. C'est pas vraiment médium, on dit majeur. C'est pas médium, c'est pas.
Oui, il y a déjà un major, donc c'est très compliqué.
C'est par peur de la répétition. Il est rudement délicat.
Alors que médium, au contraire, ça fait fantastique. C'est très élaboré.
C'est plein d'approximations. C'est sûrement très très drôle.
Sûrement, on va demander à Jacques Vallée de nous refaire une lecture plus amusée pour qu'on ait une autre version du texte.
Tout à coup, la main se dressa sur son médium, se balança quelques instants d'avant en arrière et d'arrière en avant, comme pour prendre l'élan, et sauta par terre, tel un chat, sans bruit aucun. Tel encore un chat sur le tapis, elle bondit presque en mouvement, de haut en bas et de bas en haut, et, arrivée près de la table de nuit, fut d'un trait sur le marbre, y tâtonna parmi les flacons, déboucha l'un d'entre eux, le prit et en versa quelques gouttes dans le verre de tisane. Puis, rampant jusqu'au nez du dormeur, le lui pinça de façon à ce qu'il se réveillât dans un éternuement, plongea dans le blanc et le noir des draps, puis se précipita par terre, où je ne la suivis plus du regard, toute mon attention étant désormais concentrée sur le malade. Celui-ci dit que j'ai donc soif. Et sans que je pusse, à mon immense, à mon indicible horreur, me lever du fauteuil où me retenait je ne sais quelle force diabolique, saisis le verre à tisane et bu. De cet instant précis, je me sentis délié en quelque sorte et couru au lit, où je ne pus que constater la mort immédiate du major. Sans me livrer à des efforts inutiles, je regardais le flacon dont la main s'était servie, il me faut bien parler de la sorte. Il contenait un poison foudroyant destiné à une médication pour l'usage externe et se trouvait laissé, par mégarde, parmi les pots de tisane et les fioles de sirop de julep.
Oui. Ça veut dire qu'il y a le nom du produit sur le flacon,
et
en
que
fait.
C'est une main qui sait lire.
Donc, exactement, exactement. Oui, Jacques Jouy.
Moi, je pense que le narrateur, à qui appartient la main, ce que j'ai
prétendu
tout à l'heure,
oui.
Je pense qu'il est, il est sous influence, il est sous une influence diabolique, hein, il le dit. Je ne sais quelle force diabolique me retenait, et puis après je suis délié. C'est-à-dire qu'il est, quelqu'un a pris sa, sa personnalité pour lui faire accomplir cet acte.
Ah, il est manipulé.
Il est manipulé, psychologiquement, je ne sais pas comment. Ah, mais oui. En fait, la main est à lui. C'est pour ça qu'il dit après, j'ai regardé le flacon dont la main s'était servie, il me faut bien parler de la sorte. C'était, je ne suis pas responsable puisque j'étais sous influence.
Mais alors, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce ou c'est une influence mentale?
Ça, vous savez, dans le roman feuilleton, il se passe des choses très bizarres.
Oui, Dominique.
Docteur Faust, Méphistophélès, enfin,
ouais.
Comme ça.
Ouais, ouais, ouais.
Enfin, quand même, la main lui pince le nez. Ça, ça fait plus pencher vers le comique.
Oui.
Et pour que, pour faire réveiller avec un éternuement.
Oui. Et on se demande pourquoi on lui pince le nez. Oui, c'est ça, pour qu'il ait soif et qu'on puisse l'empoisonner.
Et puis ça fait rire. Voilà. Enfin, il faut prendre ça.
C'est
oui,
vrai
mais
que ça pourrait
faut prendre
pour
ça
les
légère.
Oui.
C'est un visuel, vous voyez. Mais cette main, elle plonge dans le blanc et le noir des draps. Elle plonge pas. Il fait image tout de suite. C'est vrai que ça parle. L'obscurité, plutôt que de dire la main va sous les draps, etc. Le blanc, le noir des draps, ça fait image, c'est formidable. Et puis il y a une forme de décontraction, parce que là, il dit, cette fiole, là, elle contenait un poison foudroyant destiné à une médication pour l'usage externe. Il s'est même pas cassé les pieds pour aller jusque chez le pharmacien, lui demander un nom de produit.
Exactement.
Non, allez, un médicament foudroyant, voilà, un poison à usage externe.
Pas besoin d'ordonnance.
Oui. Moi, quand même, je pense quand même que la main est vraiment dans le fantastique, parce que pourquoi il dirait dans ces cas-là, elle plongea dans les draps, où je ne la suivis plus du regard, toute mon attention étant désormais concentrée sur le malade. Là, on revient à l'œil du narrateur qui regarde ce qui se passe. Alors, je veux bien qu'il ne regarde pas où est sa main, mais elle est quand même glissée sous les draps du major qui est malade. Alors, je ne veux pas qu'on aille vers les interprétations de gens qui tripotent des malades, mais enfin, ça serait un peu gênant si c'était sa main. Même si c'est très délié à ce moment-là du récit, évidemment.
Mais c'est Jacques Jouy qui pense que la main appartient au narrateur.
C'est du comique, mais oui.
Voilà. Pas du tout du comique. Il y a une petite plaisanterie au début, oui, sur le pince-nez, mais...
Ah bah moi, ça me fait rire.
C'est... Ah bon?
Mais c'est du grand guignol.
C'est presque du Chaplin.
C'est du visuel.
Mais alors, ce serait un humoriste professionnel ou quelqu'un qui s'essaie, qui se dit « Tiens, je vais écrire quelque chose d'un peu drôle ».
Bah, il y a des drôles professionnels. Enfin,
non, mais il y en a qui ne le sont pas.
Vous voulez dire
qui essayent un jour d'être drôles. C'est pour ça que peut-être ça ne fait pas rire tout le monde.
Non,
vous, ça vous fait rire
non,
beaucoup.
Mais l'habitué, il cavale. Hein. Non, il ne s'en pas de... Bah non, je vous voyais bien.
Bon, je sens que vous avez un nom. Est-ce que vous avez des choses à ajouter avant de lâcher des noms, Dominique?
J'insiste sur mon regard naïf à moi sur ce texte. Je veux garder, justement, ne pas commencer à dire c'est de la rigolade, c'est de... Non, j'ai essayé de le lire comme une chose donnée à des enfants, mais voilà, très sincèrement, quoi.
Avec fraîcheur.
Et donc, je peux donner un nom qui est un nom sérieux, justement, qui serait, par exemple, Hoffmannsthal. C'est ça que je dirais. Juste avant Goethe, quoi. Un pré-romantique, voilà. Hoffmannsthal.
Ben, Dominique Hoffmannsthal. Jacques Jouy, ce feuilletoniste, vous avez l'air dubitatif.
Non, moi je donnerais deux noms, mais qui sont le même. C'est Souvestre et Alain, les auteurs de Fantomas.
Ah, ça n'est pas contradictoire.
Non.
Souvestre et Alain, oui. Sophie d'Ivry, un nom. C'est pas facile, hein.
Oui, je suis un peu embêtée aussi, oui. Mais... dans la série diabolique et puis un peu christique, je prendrais Bulgakov. C'est pas dans Le Maître et Marguerite, mais il est capable d'écrire des sabbats comme ça, un peu premier degré. Moi aussi, je pense que c'est premier degré. Alors, c'est pas très très bon, je trouve, mais en même temps, il y a un côté américain qui me gêne un peu, quoi, pour Bulgakov.
Pour Bulgakov.
Ouais. Ça, on verra.
C'est l'éternel problème avec le choix. Hein. Et Serge Joncourt, alors, cet auteur de BD?
Oui, alors tout de suite, très vite, pour tout dire, dès le début, j'ai vu Roland Topor, parce qu'il y a plein de chats, enfin il y a des chats, enfin non, c'est la main, se balade tel un chat.
Etc. Oui, oui.
Bon.
Oui.
Et puis, visuellement, ce texte, en l'écoutant à la première, je l'ai vu avant tout, oui. avant toute chose. J'ai trouvé ça amusant, drôle, mais ça fait image, mm-hmm. toute cause. Et puis, ben voilà, c'est un, d'abord une sorte de surdoué qui pouvait se balader dans tous les genres. Quoi, et
c'est
qui,
vrai, il l'a
et
fait.
Qui, et qui faisait un peu tout facilement. Donc ça,
pour quelqu'un, ce serait plutôt une nouvelle, non ?
Bah oui, à toute évidence, oui, oui, mmh, oui. Mmh.
Eh bien, Jacques Vallée, on vous donne le choix entre Hofmannsthal pour Dominique Müller, Souvestre et Alain pour Jacques Jouet, Bulgakov pour Sophie Divry et Roland Topor pour Serge Joncourt. Y a-t-il un vainqueur ?
Pas dans les noms qui ont été cités.
Donc nos experts ont perdu ?
Oui, enfin pour l'instant.
Bah oui, ils sont un son.
Mais c'était très juste, tous les raisonnements, toutes les remarques étaient très précises et certaines personnes ont même approché très près de la vérité du nom, du texte. Et...
Ah bon ?
Oui, oui.
Alors, les alors, trois
moi,
noms.
Moi, je propose Hoffmann, Gérard de Nerval oui. et Paul Verlaine.
Voilà. Alors, vous aviez dit Hofmannsthal, c'est Hoffmann tout court. Oui. Nous avons Nerval et Verlaine. Un bel aéropage. Alors, il n'y a pas vraiment d'auteur de bande dessinée là-dedans. Sergent Court, c'est pas facile, non. Non, qui veut argumenter ? Jacques Jouet.
Moi, je dirais Hoffmann, parce que je ne verrais pas dans Verlaine ou dans Nerval des trucs comme tel un chat, tel encore, etc. Je pense que c'est une traduction pas de très très haut niveau, et ce qui est raconté peut très bien être dans Hoffmann.
Bon. Dominique Müller.
Moi, je vais naturellement choisir Hoffmann parce que d'abord, c'est la même langue que celle que j'avais choisie au départ. Et puis parce que de Hofmannsthal à Hoffmann, après
tout. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Voilà. Oui, de Hoffmann. Sophie Divry, alors, bon, il n'y a pas Bulgakov, c'est dommage.
Hein. Oui, mais alors, je suis un peu embêtée. Mais je pense que c'est une traduction, donc je vais rester sur Hoffmann, en effet. Je ne vois pas ça écrit en français, et surtout pas par Verlaine et Nerval, non.
Oui, bah, oui c'est son Nerval opinion, hein, donc oui, nous oui. avons trois Hoffmann. Et alors, reste-vous, Sergent Cou ?
Nerval, très probablement, pour cette forme d'hallucination. Cette... Moi, je trouve bien écrit, je suis le seul, mais...
Non, non, moi aussi.
C'est pas extrêmement écrit, je dis que c'est pas ouais, forcément écrit ouais. en français.
Voilà. Ouais. Voilà. Petit après, argument pour Nerval en dehors de l'écriture.
Bah, je tombe assez haut là, hein. Enfin, je viens de loin. Hein.
Ah bah, entre Roland Topor et Nerval, je ne sais pas, oui. Jacques Vallée, qui a bien connu Roland Topor, peut dire qu'il y a un point de jonction entre les deux.
Pourquoi pas ? Si, l'imaginaire, l'aisance dans l'imaginaire.
Ouais. Bon, voilà, et puis il y a quelque chose de nervalien, la mort est là tout le temps quand même. Enfin bon, ça va pas très bien tout ça.
Ouais.
La folie à fleurs, les médicaments...
Nerval.
En cela, c'était moins tempore que Nerval, finalement.
Alors, trois Hoffmann pour Jacques Jouet, Dominique Müller, Sophie Divry. Un Nerval pour Serge Joncourt et pas de Verlaine. Y a-t-il un des gagnants ou zéro ?
Il n'y a pas de gagnant.
Ah, c'est de Verlaine ?
C'est un conte de Paul Verlaine.
Ça, alors,
et qui
ça.
S'appelle « La main du major Müller ».
Oh, Dominique !
Comme vous l'aviez deviné, il est de ma famille.
Exactement.
Et en plus, Dominique avait raison sur tout, c'est un conte fantastique. Il a été influencé par Edgar Poe, il avait lu les traductions de Baudelaire.
Oui.
Et il a été influencé aussi par Hoffmann. Et donc il a écrit des contes, plusieurs contes fantastiques. Le narrateur là, qui parle est un jeune étudiant en médecine et qui raconte cette histoire pour convaincre ses camarades, ils sont au café, tout ça, qu'il existe une solidarité entre un membre séparé violemment du corps et ce corps lui-même. Et le major en question, le major Müller, est un ami de sa famille. Il a reçu, au cours d'un duel, une blessure au poignet nécessitant l'amputation de la main droite. Mais il n'a jamais voulu s'en séparer. Donc, il conserve sa main coupée depuis des années. Il la conserve dans sa chambre à coucher, momifiée sous un globe de cristal. Il est toujours attentionné vis-à-vis de cette main, parce qu'il dit... Et puis un jour, il tombe gravement malade et le jeune étudiant le veille. Et cette nuit-là, l'état du major s'améliore, donc il dort d'un profond sommeil. Quand l'étudiant voit la main s'agiter dans son bocal, et puis sortir, et puis aller faire aider le major à mourir.
Au moment où il allait mieux, en plus.
Mais enfin, on ne sait pas, parce qu'il était quand même très malade, c'était la fin de sa vie. Vous voyez, toute cette époque était très influencée par Hoffmann, parce que je crois qu'il y a des histoires de mains aussi dans les contes d'Hoffmann.
Mais en plus, c'est assez touchant de se dire que Verlaine devait se dire « Je vais gagner de l'argent, je vais faire une histoire très populaire, ça va marcher. »
Ça a été publié dans le supplément littéraire du Figaro en 1889. Tu avais dit 1789, c'est un siècle après. Quoi.
En résumé, Dominique n'a pas gagné, mais quand même, elle a été très forte. D'abord, elle s'appelle Müller, comme le major de l'histoire. En plus, elle avait bien dit que la main était toute seule dans le vide, Sophie aussi. Avait dit ça. Et Jacques Jouet, vous voyez, c'était pas la main du
Je continue à le penser quand même.
Ah bon. Suzanne de Leonard Cohen, version Beck. This is dedicated to baby Suzanne. Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête. Un exercice d'admiration pour anniversaire de naissance. C'était un 4 septembre. Le bébé s'appelait Antonin Artaud. Et pour l'admirer, Gérard Mordia est le mieux placé d'entre nous puisqu'il lui a consacré un film en compagnie d'Antonin Artaud avec Samy Frey. Gérard Mordia, tout sur Artaud.
Il est né le 4 septembre 1896, le divin Artaud, sonné au bois, résonné musette. Et en mars 48, il meurt en filant sa chaussette dans un poème d'Henri Thomas. Artaud, bingo, son spectre pend illico, les rênes du corbillard, et fonce dans le soleil, la folie en tête. Artaud, A-R-T-A-U-D, A-R-T comme art, comme grand art, comme beaux-arts, comme bazar avec un T, le taux d'Artaud, la croix des crucifiés, le toto des mauvaises pensées qui démangent la conscience occidentale, les poux qui nous envoûtent, la taie posée sur l'œil des aveugles par leur faute. Jamais, quand c'est la vie qui s'en va, on a autant parlé de civilisation et de culture. Dixit le momo, le môme, la momie, brandissant la canne de Saint-Patrick au-dessus de nos têtes. Théâtre d'Artaud avec un grand T. Le T de la cruauté. Le totem vrai, le taux de Toto le héros, Artaud le momo. Artaud sans H, plein de péiotle, de laudanum, de sirop chloral, attaquant à la hache le billot d'acajou, de la poésie poésante, pesante et sourde, à la boule à cri, au mot inarticulé de Jésus-Cri-Cri. L'Artaud en croix, sur le rocher du Golgotha, comme dans un poème d'Henri Pichette. Vous, Antonin Artaud, votre vie ne prêterait jamais aux paraboles historiées. Vous étiez autrement crucifié que l'autre, voilà tout. Ces choses-là vous paraissaient d'une bouffonnerie sinistre et vous riez abruptement. Mais qu'est-ce que vous foutez là, monsieur Artaud ? Artaud, rage et délire contre les crédences petites bourgeoises de la pensée à tous et à toutes. Il ose, il glossolalise. Bas gazi, ta chérie, ta bimbo, gos binimbo, oh nimba, bibo, ya festa, ya fresta, patera, ya fraterna, oh feta poto. Quand un enfant entend cela, que fait-il ? Il rit. Mais quand les serpents à tête plate de l'université s'en emparent, ils crient au fou ou au génie. Pour eux, c'est la même chose, pourvu qu'on aliène le poète à triple tour dans la cellule de l'explication, qu'on le serre dans la camisole de la critique. Infinie politesse du désespoir, l'exquis Momo s'en moque. L'oiseau moqueur, l'Artaud à la plume emportée, vole encore trois ciels au-dessus d'eux. Glu ou pas glu, filet, lacet, piège, ils ne sont pas prêts de lui couper les ailes. Coup coupé court toujours, et le Momo est passé au langage. Il vit poétiquement sur la terre, comme Hölderlin, comme Nerval, comme Roger Gilbert Lecomte qui écrivait « Celui qui voit son double en face doit mourir ». Artaud est son double, Artaud est son double, Artaud est du verbe « haïr » son double. Ce Momo qui, les yeux comme une sonnerie bloquée, dans un poème de René Guy Cadou, marche sur son ombre. Mister Artaud et Docteur Momo, sis à l'hôpital psychiatrique, à la maison de fou, comme il dit. Artaud a un couteau piqué dans le crâne, remet à l'heure la breloque interne. Artaud arrache le clou inarraché dans l'être, il s'en prend à ce que d'autres fuient, le dérèglement de tous les sens. Sa folie, qui n'en est pas, est celle jumelle de Van Gogh, qui dans toute sa vie ne s'est fait cuire qu'une main, il n'a pas fait plus pour le reste que de se trancher l'oreille gauche. Et si un jour, un homme se levait parmi les hommes, comme il se lève dans un poème de Jacques Prevel, si Antonin Artaud s'avançait aujourd'hui, nous l'entendrions répéter ce qu'il disait à ce jeune poète, « Mais c'est moi, vous n'êtes pas assez révolté, monsieur Prevel. » Et c'est vrai, en 1896, comme en 2016, nous ne sommes pas assez révoltés et nous ne le serons jamais assez.
Un commentaire, Lucas.
C'est pas seulement un exercice d'admiration, c'est un exercice d'érudition, d'imitation aussi, du style, un exercice d'interprétation, parce que c'est pas facile. Et pour quelques néophytes comme moi, plutôt un exercice d'initiation.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Tressart avec Anne de Pelchin et Manuel Couturier. À télécharger sur franceculture.fr rubrique podcast pour vos archives papous et une deuxième écoute dès qu'il vous plaira. Tous les renseignements sur notre rendez-vous en public au studio 105 le vendredi 30 septembre sur notre page Facebook et sur franceculture.fr. On se retrouve dimanche prochain, même heure, juste après l'année politique. Au revoir, passez un très bel après-midi en bonne compagnie à l'écoute de France Culture. Yeah.